Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre édition de Société. Aujourd'hui, beaucoup encore de sujets à traiter. Nous allons discuter dans quelques instants de politique, évidemment, avec Frédéric Bérard et Steve Fortin. Puis, en deuxième partie d'émission, nous recevons celui que vous avez déjà entendu dans cette émission, Frédéric Lacroix, physicien, chroniqueur à l'autre journal. Il s'intéresse à la question linguistique depuis plus de 25 ans et il publie un livre qui s'appelle « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Alors, le titre frappe quand on le prend comme ça. Et puis, c'est le livre aussi. C'est un livre consistant. C'est une démonstration. On verra ce qu'il en est un peu plus tard, donc, avec Frédéric Lacroix. Puis, si on a le temps, en fin d'émission, nous allons faire un petit tour à Paris avec Nicolas Vidal. Je dis bien si on a le temps, parce qu'il m'arrive de vous annoncer des choses comme ça qui n'arrivent pas. C'est parce qu'on jase trop au début et puis on garde les sujets, certains sujets pour la fin. Alors, en principe, à la fin d'émission, Nicolas Vidal en direct de Paris. Alors, retournons tout de suite dans la politique québécoise, canadienne aussi, puis états-unienne aussi, parce que là, vous le savez, à cette émission, on se fait pas le... on tient pas à faire du Québec un État américain et à vous raconter chacune des pitreries de M. Trump en temps réel, parce qu'on ne ferait que ça, mais là, franchement, c'est le temps d'en parler. L'élection présidentielle chez nos voisins du Sud arrive à grands pas, et puis il se passe beaucoup de choses là-bas. Allons tout de suite rejoindre, donc, nos deux abonnés, nos deux fidèles, Frédéric Bérard, Steve Fortin, bonjour à vous deux.
Salut.
Alors, commençons par un sujet qui a un petit peu moins retenu l'attention dans l'actualité. Si je vous parle de barrages autochtones, vous allez penser que je recule, je remonte dans le temps et je reviens à des temps pré-pandémiques. Ben non, je parle plutôt de ce barrage, alors qui a été érigé là, dans la réserve faunique La Vérendrye et qui persiste, notamment parce que la SQ, là-bas, reste les bras croisés, qui persiste malgré une injonction là, de la Cour supérieure, je crois. Alors, on ne veut pas toucher à ça. C'est du moins ce qu'a dit le ministre Lafrenière, le nouveau ministre Lafrenière, je crois. Il a dit que c'est trop... on ne veut pas faire s'envenimer les choses. Est-ce que c'est ça, Frédéric Bérard? Dites-nous donc, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Ben, en fait, c'est assez grave, hein? Actuellement, et Steve, pour ajouter, là, il a suivi la situation encore davantage que moi, mais en gros, essentiellement, sur la ZEC Pitawaga, qui est une ZEC reconnue, que moi j'allais là quand j'étais petit avec mon père, pas très loin de Mont-Laurier, en fait. Et faire une histoire courte, la ZEC a accordé, comme à l'habitude, ses droits de passage pour la chasse à l'orignal. Donc, il y a des chasseurs, essentiellement des Blancs, qui ont ces permis-là, le permis québécois et le permis accordé aussi par la ZEC. Cela dit...
C'est en ce moment, ça, la période de la chasse, ça dure quoi, 2-3 semaines?
Oui, bien, 3 semaines, ça se termine demain, en fait. Donc, de là l'urgence de la situation. Et la nation algonquine, qui occupe partie importante de ce territoire-là, a dit depuis le début, il a dit, écoutez, les cheptels d'orignaux diminuent sans cesse, vous ne pouvez plus continuer à chasser de cette manière-là, c'est ridicule. Le gouvernement du Québec a dit, ah ben effectivement, je pense que c'est quelque chose comme 35% de moins, mais c'est pas la fin du monde, on continue quand même. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les Algonquins ont décidé de bloquer le passage en rapport à la ZEC en question, ce qui fait que cette même ZEC s'est adressée à la Cour supérieure pour obtenir une injonction, donc pour forcer la levée des barrages. Et là, je vous dis une affaire, Nick Payne, j'aurais pas aimé être à la place de la juge en question. C'est une injonction provisoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une injonction qui est rendue d'urgence, sans débattre nécessairement sur le fond. Mm-hmm. Des injonctions qui sont souvent difficiles à gagner, parce que là, on doit démontrer bon l'apparence de droit, mais aussi que là, il faut absolument bouger rapidement, puis la balance des inconvénients et tout ça.
Parce qu'il y a des préjudices, évidemment, qui ne pourront pas être réparés. Là. Bon.
Et en plein ça. Et là, c'est parce que pourquoi je vous dis que j'aurais pas aimé être à la place de la juge? Fait qu'au-delà de l'aspect, évidemment, très, très délicat de la chose, il y a ce qu'on appelle des droits ancestraux qui sont reconnus aux Autochtones par la Constitution canadienne, à son article 35. Et là, ça, tu n'as pas le choix de le considérer, évidemment, comme tribunal. De l'autre côté, tu as des chasseurs qui, de bonne foi, se sont vus octroyer deux permis. Je veux dire, ils n'ont pas demandé de privilège. Là, je veux dire, c'est accordé conformément à la loi. Et la Cour supérieure a rendu la décision suivante. C'est que effectivement, l'injonction provisoire, donc on n'est pas encore au fond, doit être accordée. Et oui, c'est vrai qu'il y a des droits ancestraux, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas nécessairement d'enjeu à ce niveau-là. Ça devrait être débattu sur le fond un peu plus tard. Et elle force donc la nation algonquine à retirer ses barrages et elle dit clairement, et c'est moi, c'est là que j'ai accroché, c'est là pour pas dire que j'ai sauté un câble, elle dit clairement que les policiers doivent accompagner la ZEC à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle devra aider à lever les barrages, et ça, c'est écrit à 2-3 reprises dans la décision, incluant dans les conclusions. En d'autres termes, c'est une ordonnance claire, nette et précise de la Cour. Et pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec ça, juste pour vous dire que quand la Cour rend une injonction, si vous violez l'injonction, donc l'ordonnance en question...
Ben oui, il faut aller en prison, c'est ça.
Ben oui, c'est, vous êtes passible, exactement. Bravo, oui. Vous êtes passible d'outrage au tribunal. En d'autres termes, c'est sérieux. Or, et puis là, j'arrête là-dessus après, là, c'est devenu drôlement problématique parce que la ZEC, elle dit, OK, bon, ben là, le débarrage, on va pas faire ça tout seul. Et puis, évidemment, il y a des violences, puis ça, Steve va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Et alors, là, elle demande à la SQ, qu'est-ce qu'elle dit, la SQ? Ah non, on peut pas vous aider, là, c'est une injonction au civil. Si vous voulez qu'on vous aide, allez chercher une injonction au criminel. Nous autres, on peut rien faire au civil. Non, mais ça prend vraiment des méchants moineaux, pour pas dire autre chose.
Non, ben là, c'est...
Une injonction au criminel, ça existe pas, là, on va commencer avec ça. Puis deuxièmement, ben, comme on vient de le dire, s'il y a un outrage au tribunal, ben, la police, ça peut être appelée pour ça. Je veux dire, c'est quoi? D'ailleurs, l'ordonnance est claire et nette, la police...
Avant de passer à Steve Fortin, Frédéric Bérard, c'est la police qui décide de ne rien faire, c'est pas une décision qui peut venir de la police. Ça vient du gouvernement. Non, est-ce qu'on n'est pas... je regarde une photo là, du barrage, puis j'y vois écrit... D'ailleurs, c'est la nation Anishinaabe. Hein? Ce sont des Algonquins, c'est ça?
Je
connais mal. Bon, en tout cas, il s'exprime en anglais. Sur le barrage, c'est écrit « Justice for Joyce ». On pense ici à Joyce et Chacoan. Alors là, c'est ça la trame de fond de tout ça, non? C'est que le gouvernement est mal à l'aise dans le contexte actuel, n'est-ce pas, Steve Fortin?
Oui, là il faut...
Allons-y avec Steve Fortin, oui.
Oui, il faut départager quelque chose. Puis merci à Fred. Ça, c'est toutes les notions que moi, j'ai pas. Puis là-dessus, je suis content qu'il ait commencé avec ça, parce que là, ce qu'il faut comprendre...
Oui, là, on passe à la politique, là, maintenant, puis au...
Social. J'ai eu la chance, moi aussi, comme lui, de monter là. Je suis allé là pas mal quand j'étais jeune, puis il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais encore jeune adulte, je suis allé planter dans ce coin-là. J'ai rencontré pas mal, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'amitiés, parce que c'est des terres de sylviculture aussi. Mais tout ça pour dire que j'ai dressé quelques lignes à l'eau, j'ai parlé avec quelques personnes là-bas, puis il faut comprendre une chose, là. Les deux camps sont dans une situation absolument intenable. Premièrement, il y a une chose là-dedans qu'il va falloir qu'il change, c'est que Fred a raison de le rappeler, c'est quand on parle de développement, de ce qui se passe là-bas, puis quand on dit que ces gens-là, ça fait longtemps que les gens du lac Barrière disent, attention, là, le cheptel diminue, puis on dirait que personne s'en préoccupe, ben quand c'est le temps de planifier ça, quand c'est le temps là, des mois à l'avance, qu'on fixe le nombre d'entrées qu'on va vouloir, puis parce que ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a une prolifération des chalets, les pourvoiries, les camps de chasse, tout ça, puis ceux qui habitent le territoire, ceux qui l'occupent, c'est toujours bien les gens qui sont là à l'année, puis eux, ils disent « Attendez, ça n'a aucun bon sens. » Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que non seulement la SQ a décidé d'intervenir, mais tu sais, à un moment donné...
De ne pas intervenir, vous voulez dire?
Pardon?
De ne pas intervenir, ou en fait...
Oui, quand la SQ a décidé de ne pas intervenir, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils se sont dit « Ben non seulement on va faire des barrages, mais aux grandes dames des gens qui vont, à titre, là, si on veut, de chasseurs, puis qui vont une fois de temps en temps, là, on a pris la pépine, puis on s'est mis à défaire les ponceaux, on s'est mis à... Mais là, on crée une situation qui va durer dans le temps, parce que c'est pas vrai qu'on va être capable de réaménager tout ce qu'on est en train de démolir sur ces chemins de terre-là, et je te jure, c'est pas évident de circuler dans ce coin-là, mais là, on est dans quelque chose qui va durer dans le temps, parce que c'est les gens qui sont là, ils ont dit, ben savez-vous quoi, vous allez nous consulter quand c'est le temps de ménager, puis de décider ce qui se passe sur notre territoire, puis sinon on va prendre les grands moyens pour y arriver, mais le gouvernement, en amont, savait très bien que s'il ne faisait rien, à un moment donné, c'était pour sauter. Est un arriver l'histoire de Joyce Echaquan. Et là, ce qui se passe, c'est que les questions autochtones, tout à coup, ça devient c'est à l'avant-plan de l'actualité.
C'est encore plus sulfureux, explosif que d'habitude.
Et là, donc, on devrait dire. On s'est dit, c'est le bon moment. Maintenant, on y va, puis on va faire valoir nos revendications. Et bien honnêtement, là, si c'est ça que ça prend à un moment donné pour que le gouvernement comprenne qu'on ne peut pas toujours aménager, décider de ce qui se passe sur le territoire sans consulter ceux qui l'occupent et ceux qui l'habitent de plein droit, bien, on a un problème. Et là, on est là-dedans. Puis c'est en train de s'envenimer. J'ai aussi parlé avec deux personnes qui sont sur des pourvoiries. C'est pas normal que des gens, par exemple, qui sont là et qui, l'an dernier, à la chasse de l'an dernier, il y avait des relations cordiales puis avec les nations autochtones. Et là, tout à coup, ben tout ça, c'est parti. Et là, ben on est dans une dynamique de confrontation, d'affrontement, d'intimidation, de menace. Bien entendu, ça, je suis moins d'accord avec ça. On commence à accuser tout le monde qui sont, hey, c'est du monde qui se connaissent depuis des années. Mais là, tout à coup, les gens qui occupent les pourvoiries, qui habitent là, ben, ils se font traiter de racistes, par voisin. Tu sais, là, on est complètement ailleurs, puis ça peut pas bien se terminer. Et plus le gouvernement attend, plus il y a de l'inaction là-dedans, plus ça va s'envenimer, c'est certain.
Alors, Frédéric Bérard, Steve Fortin est en train de nous dire, au fond, qu'il y avait une cause au départ, là, sur la question du cheptel des animaux, mais ensuite, là, on est peut-être dans un problème qui est décuplé par la cause de l'heure, là, le drame de Joliette. Je vous ai entendu plaider ailleurs, Frédéric Bérard, là, l'action. Là, c'est pas normal, disiez-vous, que la SQ n'agisse pas. En faisant ici, on sort de l'état de droit et on se prépare des lendemains catastrophiques. Est-ce que vous maintenez cette position-là ou est-ce qu'on s'en va vers une négociation, quelle qu'elle soit?
Ben, je peux même réenchérir parce que moi, j'ai plusieurs amis encore là-bas, notamment des gens qui sont allés chasser, qui je les connais bien. C'est des gens qui sont, ça va rejoindre peut-être un peu là, ce que disait Steve à quelque part. C'est pas des gens racistes pour deux sous, mais là, tu les encourages pratiquement à le devenir parce que tu vas obtenir une décision de la Cour supérieure. Là, c'est pas un conseiller en orientation secondaire 4. Là. C'est pas, ça te donne pas des idées comme ça, des petites recommandations. C'est un ordre. Si tu ne respectes pas l'ordre, tu violes l'état de droit. Puis si tu violes l'état de droit, bonne chance pour ta démocratie.
Mais là, nos auditeurs vont dire, oui, mais c'est ce qu'on est, on fait pas tout le temps ça avec les Autochtones. Est-ce qu'on n'a pas toujours... Alors, techniquement, c'est peut-être pas le cas. Éclairez-nous.
Oui, mais quand il n'y a pas d'ordonnance de la Cour, là, évidemment que les policiers essaient de se faufiler.
Ménager et puis...
Oui, mais là, il y en a une. Puis elle est claire. Donc, qu'est-ce qui arrive, vous, si vous êtes un chasseur blanc qui vous fait dire, on a obtenu une décision de la Cour... C'est la Cour supérieure parce qu'elle qui est mes injonctions. C'est pas un dépanneur couche-tard.
Mais la police ne fait rien et là, les pourvoiries vont perdre de l'argent parce qu'on est en pandémie.
J'ai une question pour Fred. Fred, j'aimerais ça, je ne sais pas si tu le sais. Quand l'injonction est tombée, est-ce que c'est avant ou après qu'on nomme un policier aux affaires autochtones?
C'est tout juste avant.
Oui, c'est ça. Et là, le nouveau ministre...
Avant, puis la CAQ a nommé un policier pour... Ça n'a aucun sens.
Permettez-moi de reprendre le contrôle de mon émission. On va passer à un autre sujet. Parce qu'il faut quand même qu'on parle d'autre chose. Est-ce que ça vous dérange de migrer un peu vers le sud? On n'en parle pas souvent de M. Trump parce que, bon, le cirque du soleil du M. Orange, à un moment donné, ici, on ne sait plus quoi faire avec ça. Mais là, l'élection s'en vient. Tout le monde semble annoncer une déconvenue assez importante pour M. Trump, la défaite. Mais est-ce que ce n'était pas le cas aussi en 2016? Pensez-vous vraiment, là, vous deux, je commence avec vous, Steve Fortin, que cette fois-ci, ça va vraiment mal pour Donald Trump?
Bien, écoute, ça, c'est une question. Je suis content qu'on aborde ça parce que y a, à chaque fois qu'il y a des élections, un dada pour moi, c'est la question des sondages, mais aussi de la mécanique des sondages. Regardez comment on le fait et tout ça.
Qui le fait, hein? C'est un sondage à CNN, on comprend que, enfin, les médias américains étant ce qu'ils sont, mais...
Oui, mais il y a des observatoires, puis il y a des... ce que j'aime aux États-Unis, c'est qu'il y a aussi des chaires d'études dont c'est le mandat que d'étudier universitaires, là, j'entends, Donc, c'est beaucoup plus scientifique, dont c'est le mandat d'étudier l'opinion publique et dont l'opinion politique. Puis ça, j'aime ça. Le CERB, par exemple, c'est ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que on fait des grandes enquêtes, puis là, ensuite, on va publier. C'est plus juste une notice méthodologique. Des fois, ça a 50 pages, et là, tu as de la documentation. Puis je veux dire quelque chose par rapport à ça, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé, dans certains cas, puis je l'ai partagé sur mon fil Twitter la semaine dernière, et on a décidé d'aller dans certains États où ça s'est joué. Et en Pennsylvanie, je peux te dire une chose, on n'a jamais eu des écarts qui étaient plus grands que la marge d'erreur. Mais là, maintenant, dans certains États, on est beaucoup plus grand que ça. Puis on va aller jusque dans certains quartiers, dans certains pôles, où on se dit, ben là, ça s'est joué beaucoup là. Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan. Puis ce dont on se rend compte, c'est que, là, maintenant, on est dans des gros écarts. Et puis,
on est dans gros écarts, mais Frédéric Bérard, est-ce que vous pensez...
Que la marge d'erreur.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on oublie, Frédéric Bérard, une portion de marge d'erreur qui est celle du vote honteux, du vote... ici, au Québec, on parlait de la prime à l'urne pour les libéraux à l'époque. Les gens qui sont gênés de dire, dans le cas des États-Unis, qu'ils vont voter pour Trump. Et puis, finalement, lorsqu'arrive l'élection, il y a un vote plus fort que prévu pour le candidat en question. Pensez-vous qu'on en échappe une partie de ce point de vue-là?
Ben, moi, ça me semble évident. Je pense que je connais pas beaucoup de gens qui sont contre Trump qui vont faire semblant qu'ils votent pour lui, là.
Oui.
L'inverse est pas mal plus probable. Ouais. Parce que bon, il y avait nécessairement une honte rattachée à tout ça dans un certain point. Mais là, maintenant, quelle est cette marge-là? Franchement, je le sais pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est drôle qu'on parle de ça, cette espèce de... Habituellement, je trouve qu'on se considère un peu trop comme un autre État américain, là, tellement on s'intéresse à la politique américaine versus souvent ce qui se passe ici, là, à l'exception de cette émission, bien sûr. Mm-hmm. Mais ce qui, dans ce cas-ci, ce qui m'inquiète particulièrement, et de là l'intérêt de suivre l'élection en question, on parlait d'État de droit, Nick, il y a de ça quelques minutes. Là, on est en plein dedans. Juste avant là, de repasser la rondelle à Steve, je m'en allais dire que si vous êtes capable de me nommer une seule démocratie qui n'est pas fondée sur un État de droit sérieux, je vais vous lever mon chapeau, mais je vous dis, je ne serais pas capable de le faire. Donc, ici, pourquoi je vous parle de ça?
Ben oui.
Si Trump perd, ce qui est possible, peut-être même probable, on verra bien, mais qu'il perd par une marge, disons, assez minime, et qu'il décide de rester en poste. Ça, on s'entend que c'est une violation de l'État de droit.
Mais est-ce que c'est un scénario, ça, qu'on se raconte pour se faire peur à gauche ou chez ses adversaires, ou on peut vraiment imaginer un tel scénario?
Bien, regardez la bande de coucous là, qui se promène avec des AK-47, puis il y en a plus que 2-3, là, qui vont essayer de snapper la gouverneure du Michigan, puis ainsi de suite. Puis là, le coucou en chef qui tweet de libérer Michigan, puis des trucs du genre. Une fois qu'il sait qu'il perd, puis d'ailleurs...
Ils ont voulu vous parler de ce espèce de complot pour enlever ou procéder à une arrestation citoyenne?
Et toutes les variations sur thème, là. Mm-hmm. Il y en a beaucoup trop, d'ailleurs. Mais rappelez-vous ce que son gendre dit en avril ou en mai dernier. Il dit, on verra si Trump... reportera l'élection ou pas, donc il laissait, alors que la Constitution américaine est claire là-dessus, tu ne peux pas la reporter.
Mais Steve Fortin, est-ce que c'est une vraie... est-ce que quand le gendre de M. Trump dit de telles choses, est-ce qu'il les pense vraiment ou est-ce que c'est une sorte de message codé pour tous les amateurs de QAnon et tout ça qui sont, de toute évidence, là on s'en rend de plus en plus compte, mm-hmm. une composante... sinon importante, en tout cas essentielle ou certaine de la base électorale de M. Trump, et on veut leur montrer qu'on continue d'être contre le système et l'État profond et ces gens qui nous manipulent derrière les rideaux. Est-ce que, comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce qu'on est là ou on veut vraiment là, dans le clan Trump s'accrocher au pouvoir advenant une défaite?
Des dernières heures, pour la première fois, parce que Trump envoie des signaux, mais il faut faire attention, parce que c'est quelqu'un qui est très, très impulsif, puis tout à coup, il est sorti complètement de cette dynamique-là, quand il a laissé entendre que ça pourrait être le cas qu'il décide de juste sacrer son camp des États-Unis. C'est pas passé inaperçu, puis ça, il a fait ça au cours des dernières heures, il l'a fait hier, donc c'est pas passé
inaperçu. D'être exfiltré en hélicoptère comme un dictateur déchu.
Si Joe Joe Biden gagne, ben moi, je vais quitter les États-Unis. Tout le monde sait que c'est de la frime, mais tout à coup, c'est que ça change l'angle.
Ben, il pourrait peut-être aller en Russie.
Il pourrait peut-être aller en Russie. Mais tu sais, ce qui se passe aussi avec ça, Nick, c'est que dans son town hall qu'il a fait cette semaine, Donald Trump, là, c'est la première fois que je le voyais vraiment un petit peu, pas déstabilisé parce que c'est pas le genre, mais il pouvait pas paraître agacé. Mais quand on l'a questionné sur QAnon, quand on l'a questionné sur les Proud Boys, quand on lui parle de ça en entrevue, de plus en plus il est agacé. Et j'invite les gens à aller aujourd'hui sur The Atlantic, puis il y a une des rédactrices qui publie quelque chose sur QAnon, Why It's Here to Stay, pourquoi on ne s'est pas débarrassé de QAnon. Mais ce qui se passe, c'est que Donald Trump, présentement, c'est probablement le personnage politique qui a été le plus, disons-le, là, moi, je suis pas prêt à dire qu'il est si content que ça d'avoir ces gens-là et d'avoir à défendre ça, mais c'est le plus complaisant, assurément.
Mais assurément, il leur a quand même parlé dans ce town hall à NBC. Il a dit, oui, je connais pas tellement QAnon, mais je sais que ce sont des gens qui sont très, très motivés contre la pédophilie. Alors, on était rendu. Alors, vous comprenez. Mais juste pour nos auditeurs, là, alors QAnon, c'est ce mouvement qui est en principe de gens qui suivent cette personne anonyme, mystérieuse. Q, c'est un code de sécurité très élevé. Ce serait une personne qui serait dans l'entourage de Donald Trump ou de la Maison-Blanche. Et Anon pour anonyme. Donc, cette personne dissémine des messages codés à l'intention de ces très nombreux partisans maintenant et qui explique que il y a les complots les plus fous, là, pour pas rentrer dans les détails. Et Donald Trump serait l'espèce d'élu presque de Dieu pour se battre contre ce vaste complot.
Mais en terminant là-dessus, on a compris dans l'entourage de Donald Trump que ce genre de d'accointance-là, c'était tellement dommageable. Puis là, maintenant, tu sais, là, il est trop tard. On s'est engagé dans une genre de dynamique où il va vivre puis il va mourir avec cette accointance-là. Mais il y a une chose, par exemple, QAnon va pas disparaître après. Puis là, on le comprend. Et c'est ça pour moi que Donald Trump, là, au national, puis tout ça, là, je veux dire, il passera pas. On arrête ça, là, il passera pas. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'il y a eu une radicalisation au cours des derniers mois qui, elle, va perdurer. Puis c'est ça c'est là-dessus qu'il va falloir s'arrêter. Et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent et qui voient. Tu sais, maintenant, il y a des champs de recherche qui commencent à analyser ça, puis on le voit. Mm-hmm. Et ça, c'est bon, parce qu'il va falloir qu'on continue à comprendre ce phénomène-là. Sinon, Trump, ça aurait été qu'une des variantes, une des variations de ce que peut produire cette désinformation-là, puis ce genre de conspirationnisme qui trouve trop d'écho chez trop de gens à la fois.
Frédéric Bérard, puis on va faire le lien vers le Québec. Cette semaine, notre principale vedette du mouvement QAnon, c'est Alexis Cossette-Trudel. Oui. S'est fait, enfin, dans les derniers jours, là, bloqué, supprimé de YouTube, ensuite, ou avant Facebook, et depuis Vimeo, une autre plateforme vidéo. Mm-hmm. Là, les grandes plateformes commencent à réagir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va stimuler les troupes qui vont se dire, vous voyez, c'est la preuve, on complote contre nous la vérité, on veut empêcher la vérité de sortir? Ou est-ce que, somme toute, ça aura l'effet de diminuer l'importance de ce personnage, d'après vous?
Ben, en fait, les deux réponses sont possibles, parce qu'évidemment, en lui retirant ses plateformes, l'influence de Cossette-Trudel va s'amenuiser, ça me semble assez clair. Mais vous voyez, il y a quand même un débat là, qui est très délicat ici encore. Moi, je suis toujours très partagé sur la question de la liberté d'expression. Oui, elle a ses limites, je suis d'accord, mais qui censure, comment et pourquoi? Là, ici, on parle d'entreprises privées, on parle quand même pas du CRTC, mais quand même, ça reste délicat, surtout que ces gens-là peuvent se faire passer en martyr. Et je suis content que vous rameniez ça sur la question québécoise, à la question québécoise, Nick, parce que on parle beaucoup de Trump et ci et ça, QAnon, mais ici, il y a un mouvement qui, je ne le croyais pas si puissant que ça, et je vous jure, et c'est une coïncidence qu'on en parle aujourd'hui, mais hier après-midi au métro, vous savez peut-être, je fais des petites capsules parfois là pour expliquer certains trucs, et là justement...
Au journal métro, hein, pas à la station de métro, ni à l'épicerie.
Oui, plus précisément, oui. Et donc, j'ai fait une capsule hier après-midi, là, c'est sorti, sur justement cette décision-là de Facebook, YouTube, Instagram, de retirer Cossette-Trudel de leur plateforme. Et... Je vous jure, là, à ce moment-ci, il y a quelque chose, comme je regardais juste avant d'entrer en onde, pratiquement 800 commentaires. Ça commence à être beaucoup, là, en même pas 16 heures. Mais 800 sur les 800 commentaires, il doit en avoir, je sais pas, là, 750 contre moi pour défendre Cossette Trudel, pour défendre QAnon, pour défendre l'existence de, pour expliquer l'existence du Deep State, pour expliquer que Trump doit venir nous aider, ainsi de suite.
Ah, si ce n'était que ça, hein, souvent les théories sont plus hallucinantes, là. Encore qu'on veuille penser qu'il y a un sous-gouvernement obscur, c'est une chose, et puis on pourrait même vous et moi, à la rigueur, adhérer à ça. Là, on est dans des affaires vraiment dignes de films de même pas de science-fiction. J'aime mieux pas qualifier, mais.
Allez jeter un œil là-dessus et c'est hallucinant. Je ne réponds même plus, je ne sais plus quoi répondre. J'ai reçu des menaces, mais ça, je m'y attendais, puis c'est un peu classique. Mais là, ça commence à devenir d'une violence assez inouïe. Et comment fais-tu pour... Parce que moi, j'ai toujours cru à l'importance du dialogue, de discuter, d'échanger de l'information, et ainsi de suite. Mais là, ici, je réalise malheureusement que c'est une chose qui est rendue impossible. Ces gens-là sont dans une autre stratosphère, là. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui me dit que Trudeau est à la tête d'une secte pédo-satanique et que les Digaga mangent des cadavres. Parce qu'une fois que j'ai dit, ben non, Satan n'existe pas, puis Trudeau n'est pas pédo, ils vont me dire, ben prouve-le.
Mais là, nos auditeurs vont penser que vous faites des farces, mais on est là, hein? C'est exactement
oui,
c'est ça.
Je vous dis, blague pas. Oui, oui. C'est très sérieux, ça fait partie de ce mouvement-là. La Fondation Trudeau, qui est une fondation très respectable, qu'on n'aime pas Trudeau ou pas, c'est une fondation d'universitaire, a été obligée de changer son logo. En tout cas, elle a changé son logo, puis eux ont dit que ben, c'est ça, c'est parce que l'ancien logo, il y avait l'espèce de.
Symbolisait. Oui, oui.
Machin truc. Mais je veux dire, c'est parce que là, moi, ça m'inquiète drôlement pour l'avenir de notre démocratie. Et là, on ne parle plus des États-Unis, là. On parle de gens qui sont ici, qui votent ici, qui lancent des appels à la violence contre Arruda, contre Legault. Il y a déjà eu des arrestations.
Oui, ou qui ont voulu faire un coup d'État à l'Assemblée nationale cette semaine. Mais finalement, ils étaient 8. C'était peut-être un petit peu trop ambitieux dans ce cas-là.
Peut-être beaucoup, là. Ouais. Mais tout ça pour dire, à part les schizophrènes là, qui embarquent là-dedans, puis je ne ris pas de ça, là, je veux dire, c'est pas drôle, en fait, c'est pas drôle du tout. Mais il y en a d'autres qui sont. Je manque de mots, en fait, Nick, parce que je me dis comment construire une démocratie avec une portion de la population qui adhère à ces thèses-là. Et là, au début, on pouvait dire, ben, ils sont 50, ils sont 500, ou même ils sont 5000.
Oui, tout est une question de proportion, en effet, s'ils sont une petite proportion de la population. Je pense qu'on arrive à une espèce de confluent, là, de convergence d'éléments. L'effet des réseaux sociaux sur le débat de société en général. Puis là, en plus, il y a la pandémie qui vient ajouter une espèce de facteur d'angoisse. Messieurs, il va falloir qu'on poursuive ça la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Je vous laisse retourner toujours à vos confinements. Vous n'allez plus au bingo, hein, c'est ça? C'est terminé.
Non, mais moi et Steve, on a parti un petit truc de karaoké en cachette.
Ah bon? Le bingo karaoké Bédard Fortin. Excellent. On cherche ça sur Internet. Ça y est, on a trouvé un nouveau complot. C'était Frédéric Bérard du journal Métro, Steve Fortin du journal de Montréal. Merci. À très bientôt. Dans un instant, chers auditeurs, nous discutons avec Frédéric Lacroix, l'auteur de... Attendez, je ne veux pas me tromper dans le titre. « Pourquoi la loi 101 est un échec? » À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, le livre est paru le 13 octobre chez Boréal. C'est un livre de 264 pages, un ouvrage très consistant parce qu'il y a d'une part beaucoup de statistiques, des tableaux explicatifs à partir desquels l'auteur, Frédéric Lacroix, donc, explique sa thèse et fait diverses démonstrations quant à l'état des lieux sur le français au Québec. Mais il n'y a pas que ça dans le livre. Il y a aussi justement donc ces interprétations, puis aussi des solutions proposées par l'auteur pour essayer d'inverser une tendance qu'il juge rien de moins là, que catastrophique pour le français au Québec. C'est un livre qui va secouer les puces chez bien des gens, sans doute. Ça me semble, moi, être... Il y a là tout ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'un ouvrage de référence. Alors, parlons tout de suite à son auteur, Frédéric Lacroix. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on a lu ça, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Ça se lit... On commence le livre en le lisant presque comme un récit parce que vous remontez donc dans le temps, vous parlez... vous faites quelques retours en arrière dans le livre, mais notamment sur la gestation et la mise en place de la charte de la langue française, la loi 101. Vous expliquez les motifs des auteurs à l'époque, mais vous expliquez de cette loi, mais vous expliquez aussi... que très rapidement, finalement, cette loi a été démantelée de façon assez féroce jusqu'à perdre tout ce qui faisait son efficacité. J'y reviens dans un instant, mais parlez-moi donc de vous, 30 secondes. Là. Je sais qu'un scientifique comme vous, ça n'aime pas beaucoup parler de sa personne, mais on veut quand même savoir d'où vous est venu cet intérêt marqué. Ça fait 25 ans que vous vous intéressez à la question linguistique, alors que vous êtes physicien de formation. Alors, où est le pont entre la physique et la démo linguistique?
Ben, le pont entre la physique et la démo linguistique est assez clair dans mon esprit. Le physicien, ce qu'il cherche à faire, c'est de modéliser la réalité à partir de concevoir la réalité comme un système qui peut être modélisé avec des équations. Puis la démo linguistique, c'est vraiment la même chose. Donc, moi, je conçois la langue comme un système, si on veut, qu'on peut modéliser au premier ordre avec des variables, puis prédire son comportement. Donc, moi, c'est comme ça que je comprends la question linguistique. Donc, c'est vraiment la façon d'un physicien. Donc, c'est ce qui fait sans doute un peu l'originalité de mon livre, parce que j'ai une approche vraiment chiffrée et quantitative qui est inhabituelle. Donc, moi, je cherchais à me dégager des impressions subjectives. Je voulais pas écrire un livre de « je pense que ça va mal, blablabla » ou « je pense que ça va bien ». Moi, je voulais un livre où le propos était vraiment appuyé quantitativement, puis les conclusions découlaient d'une analyse chiffrée. Donc, c'était essentiel dans mon esprit. Donc, c'était ma façon de proposer un portrait synthèse de la situation qui soit le plus objectif possible. C'est vraiment mon but en écrivant ce livre-là, c'était de faire un portrait synthèse, donc un portrait d'ensemble de la situation, de la question de la langue au Québec. Le faire de la façon la plus objective possible.
Alors, on a réussi à pas tout à fait parler de vous, quoique oui, par la bande. vous êtes à Québec maintenant, mais vous avez vécu à Montréal. Est-ce que c'est d'abord un carburant? Ce sont des opinions politiques qui vous ont amené à vous poser la question du statut du français au Québec? Comment ça vous est arrivé? Comment ça vous est venu?
Ben, moi, j'ai fait mes études d'ingénierie à l'Université Laval à Québec. Donc, je suis originaire de Québec. Puis, on sait Québec...
C'est pas à Québec maintenant qu'on peut sentir le français sur le bord de la catastrophe.
Non, pas du tout. À Québec, c'était vraiment la norme absolue, puis il y avait absolument... moi, je sortais de cet environnement où le français était la norme, puis il n'y avait aucune remise en question de ça. Puis, je suis allé faire mes études à Montréal. Puis, donc, je souhaitais aller à Montréal, découvrir la grande ville, etc.
Ah, ça, c'était quoi, dans les années 90?
Les années 90, milieu des années 90.
Ah oui.
Après le référendum. Puis, donc, j'avais deux propositions. J'en avais une dans une université de langue française, puis j'avais une autre proposition à McGill pour faire une maîtrise et un doctorat. Puis, j'ai choisi McGill parce que j'avais... semblait une excellente université. Puis ce que j'ai remarqué quand j'ai visité les lieux, c'est que McGill, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. C'était extrêmement bien financé. On m'offrait des conditions vraiment en or. Puis du côté francophone, ben c'était pas mal moins bien financé. Puis on m'offrait des conditions financièrement beaucoup moins intéressantes. Donc, j'ai vraiment choisi le chemin de la facilité. Puis je suis allé faire ma maîtrise, mon doctorat à McGill. Puis c'est vraiment là que j'ai été sensibilisé à la question linguistique. C'est vraiment mon passage à McGill qui m'a ouvert les yeux parce que là-bas, j'ai été confronté à des gens qui, Québécois comme moi, avaient grandi à Montréal et étaient incapables d'articuler le mot « bonjour ». Non seulement ça, mais ils connaissaient rien de ma culture. Donc, ça a été vraiment un choc de grande ampleur pour moi. Donc,
Alors, vous voulez dire que c'est... Vous parlez de francophones, hein, qui étaient de langue maternelle française, mais qui étudiaient à McGill et qui étaient déjà...
Je parle d'allophones.
Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr.
D'allophones ou d'anglophones.
J'avais mal compris.
Des francophones.
Alors, vous avez été mis en contact avec l'autre solitude. C'est le terme qu'on emploie parfois.
Oui, pas seulement l'autre solitude, mais aussi des allophones, des gens de descendance italienne, etc. Donc, la diversité qui ne pouvait pas me dire bonjour. C'était vraiment étonnant. Moi, ça m'a vraiment étonné, parce que pour moi, me dire « hi », il n'y avait rien là. Donc, il y avait une asymétrie qui m'a vraiment interpellé. Puis c'est de là que date mon intérêt pour la question linguistique. Donc, c'est ça, c'est parti de là.
Ah oui, ça part toujours d'un choc, enfin souvent. Donc, je parlais des deux solitudes, vous avez parlé d'asymétrie, ce qui vient contredire. En fait, c'est une seule solitude et c'est peut-être celle du francophone que vous étiez dans cet environnement-là. Il faudra peut-être revoir le concept. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas vraiment deux solitudes. Il y en a peut-être plus une au Canada français.
Mais moi, je connaissais assez bien la culture anglophone canadienne.
Mais la réciproque n'était pas vraie, évidemment. Ouais.
La réciproque n'était absolument pas vraie. On ne savait aucune idée qui était Richard Desjardins, par exemple. Ça m'avait marqué. Il était quand même très populaire.
À l'époque, absolument. J'ai déjà vu ça pour, je ne sais pas moi, Éric Lapointe ou n'importe quelle grande vedette de cette période-là. Dites-moi, alors revenons à vos démonstrations chiffrées, à vos études, c'est-à-dire votre étude, votre travail, vos recherches sur la langue. Vous dites que vous avez voulu donner du concret, mettre une méthode derrière ça. Est-ce que alors vous vous souvenez de Jacques Parizeau qui disait, en citant quelqu'un d'autre, les chiffres sont aux idéologues ce que le lampadaire est à l'ivrogne, c'est-à-dire qu'ils sont plus utiles comme appui que comme éclairage. Est-ce que on pourrait vous accuser, par exemple, je vais chercher un seul élément, vous parlez beaucoup des francophones comme étant les gens dont la langue maternelle est le français, vous partez souvent de cette donnée-là, et les gens qui sont moins, j'allais dire catastrophistes, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais moins inquiets que vous sur la question de la langue, disent « Ouais, mais quand on regarde les locuteurs, quand on prend l'ensemble de ceux qui parlent français et non pas seulement ceux qui sont de langue maternelle française, par exemple, là, dans le cas de la démographie, ben là, on se rend compte que les choses vont pas si mal qu'on pensait. » Qu'est-ce que vous...
volet à votre question. Je dirais absolument. Que Jacques Parizeau, que je respecte beaucoup, était économiste et non pas physicien, donc je dirais ça en partant. Il n'était pas, c'était pas un adepte des sciences dures. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est que moi, je m'intéresse aux caractéristiques qui sont reconnues en démolinguistique. Donc, la langue maternelle, je ne parle pas seulement de la langue maternelle, je pense, je parle beaucoup de la langue d'usage, donc la langue parlée le plus souvent à la maison.
Oui.
Donc, ces deux variables-là sont vraiment reconnues et établies. C'est deux indicateurs très robustes. Puis là, la tendance qu'on a remarquée dans les derniers 20 ans, mettons, c'est que Statistique Canada commence à s'appuyer sur d'autres indicateurs que la langue maternelle, la langue d'usage, qui sont des indicateurs internationaux, là. Donc, ils définissent d'autres indicateurs qui sont des indicateurs dérivés. Donc, on dérive d'autres choses à partir de ces mesures de langue maternelle et de langue d'usage. Donc, des indicateurs secondaires qui sont des constructions mathématiques. Puis moi, je pense que ce sont pas des indicateurs robustes qui nous renseignent vraiment sur la réalité.
Alors, sont-ils utilisés pour changer, pour améliorer le portrait, en quelque sorte?
Oui, Charles Castonguay en a souvent parlé, là, le professeur à l'Université d'Ottawa. Il suit ce dossier-là depuis longtemps, puis lui, c'est ce qu'il pense, c'est que Statistique Canada utilise ça pour venir améliorer le portrait qu'il nous présente du français. Puis donc, quand on regarde les indicateurs, souvent, c'est des indicateurs qui ne donnent pas 100. Quand on les additionne, la somme n'est pas de 100%, par exemple. Donc, on a une population qui dépasse 100%. Il y a des incohérences mathématiques dans les indicateurs. Moi, ça me fait penser un peu aux papiers commerciaux qui ont fait des ravages en finance en 2008. Là, vous vous souvenez peut-être, c'était des constructions mathématiques qui étaient bricolées pour nous vendre des actifs. Puis à un moment donné, tout ça s'est effondré parce que c'était appuyé sur pas grand-chose. Mais moi, ce genre d'indicateur-là, j'en pense la même chose. Puis je pense que c'est pas juste, ça ne nous donne pas un portrait adéquat de la situation.
Alors, au cœur de votre livre, me semble-t-il, il y a un concept fort important dans votre propos, c'est celui de la complétude institutionnelle et éventuellement de la surcomplétude institutionnelle dont bénéficient l'anglais et les anglophones, notamment à Montréal. Alors, expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est la complétude institutionnelle avant d'aller dans la sur- et la sous-complétude, peut-être?
Oui, donc l'essentiel de la thèse du livre, ça s'attache à la complétude institutionnelle, qui est un concept qui a été conçu par Raymond Breton, qui est un sociologue de l'Université de Toronto. Puis ce concept-là, ce qu'il postule, c'est que la vitalité d'une communauté linguistique est déterminée par le réseau, l'ensemble du réseau institutionnel dont il dispose. Là, ce qu'on entend par là, c'est par exemple les hôpitaux, les centres communautaires, etc. Donc les institutions.
Bien sûr, les universités, les cégeps et le reste.
Oui, etc. Tout ça rentre là-dedans. La fonction publique, etc. Donc la vitalité d'une communauté, donc sa capacité à conserver ses locuteurs puis à en recruter de nouveaux, c'est dépendant de l'ampleur du réseau institutionnel.
Et donc, plus le réseau institutionnel est fort, moins les membres de la communauté en question ont tendance à s'assimiler au groupe environnant.
C'est une question de fréquence d'interaction, c'est-à-dire plus tu as un réseau institutionnel qui t'offre des services en anglais, qui en français ou en anglais, qui est fourni, qui est abondant, puis moins tu vas avoir la nécessité de parler une autre langue. Donc, tu vas pouvoir conserver ta langue avec moins de problèmes. Donc, c'est plus le réseau institutionnel a de l'ampleur, plus la fréquence des interactions avec une autre langue, une langue seconde, diminue. Donc, moins il y a de substitution linguistique vers cette deuxième langue-là.
Alors,
donc,
maintenant, parlons de la...
concept.
Oui, c'est ça. Allons dans la surcomplétude. Vous expliquez que les anglophones, qui représentent quoi, 8%,
8,1 en 2016.
Au Québec, on dispose d'un réseau institutionnel disproportionné, beaucoup, beaucoup plus grand que leur poids réel. C'est ça, la situation de surcomplétude. Ça leur confère une solidité, une force d'attraction, un prestige, c'est ça?
Oui, quand on regarde les institutions comme les cégeps sont financés, les cégeps anglophones ont 19% des étudiants au Québec, alors que les anglophones forment 8,1% de la population. Donc, les cégeps ont à peu près l'équivalent de la communauté anglophone et de la communauté allophone au total en termes de nombre d'étudiants, puis ça équivaut aussi au financement. Pour les universités, c'est pareil, il y a 3 universités anglophones au Québec, puis elles récoltent à peu près le tiers, un peu moins du tiers des subventions totales. Donc, il y a beaucoup plus d'argent qui va dans les institutions anglophones qu'il n'y a d'anglophones. Donc, naturellement, ce qui se passe, c'est que les places dans ces institutions-là, cégep, université, hôpitaux, sont occupées par des allophones et des francophones qui doivent alors étudier ou travailler en anglais. Puis le fait d'étudier ou travailler en anglais n'est pas neutre, c'est-à-dire que on sait que la langue de travail est un déterminant des substitutions linguistiques. Donc, plus on travaille en anglais, par exemple, plus on va avoir tendance à s'habituer à ça, puis éventuellement passer à l'anglais à la maison. Donc, les études font la porte vers des substitutions linguistiques vers l'anglais. Donc, c'est la surcomplétude institutionnelle du réseau anglophone à Montréal. Donc, le surdimensionnement des institutions, c'est comme un siphon qui draine une bonne partie des allophones et une partie des francophones vers la communauté anglophone. Donc, tout ça est bien sûr financé par l'État québécois. On parle de c'est des milliards de dollars par année là, qui sont versés.
Bon, alors justement, vous décrivez le glissement, l'affaiblissement du français par rapport à l'anglais à partir de ce concept de complétude et donc ici de surcomplétude institutionnelle pour les anglophones et pour l'anglais. Mais vous dites que c'est pas une fatalité. Tout ça découle de décisions que nous prenons, non seulement prises par Ottawa sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, mais aussi que nous prenons ici au Québec. Comment se fait-il que nos gouvernants sont-ils conscients de ce qu'il y a dans de ce que vous décrivez dans votre livre d'après vous, c'est-à-dire de ce glissement là qui est un peu comme un moi ça me fait penser au phénomène de la fonte des glaciers. Plus il fait chaud, plus il fonde, plus il fait chaud et on est dans une sorte d'accélération en ce moment, c'est ce que vous nous montrez là.
Ouais, il y a des boucles de rétroaction dans le système, exactement comme pour le réchauffement climatique. Est-ce qu'ils en sont conscients? Ben, moi, je me suis habitué à voir la question linguistique avec les lunettes de la complétude institutionnelle. Puis quand on commence à faire ça, c'est comme un virus. Là, on a de la misère à s'en défaire. Fait que moi, je vois les choses comme ça, puis ça me semble évident. Puis j'ai justement écrit ce livre pour disséminer le virus de la complétude institutionnelle dans la communauté, puis qu'il y a plus de gens qui commencent à voir ça comme ça. Puis quand on voit la situation ainsi, puis on se rend compte, ben, il y a une surcomplétude institutionnelle du côté anglophone, puis comme c'est un jeu à somme nulle, là, je veux dire, il y a juste un payeur pour ça. Donc, les francophones, ils ont une incomplétude. Ils sont financés en bas de leur poids démographique pour les cégeps, les universités et les hôpitaux. Donc, il y a un jeu de sas là-dedans.
D'appel d'air, ouais, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, un espèce d'appel d'air vers les institutions anglophones qui sont... C'est le gouvernement du Québec qui est le premier responsable de ça. C'est lui qui finance ça. Donc, je pense qu'il faut s'ouvrir les...
Au revoir et à bientôt.
Ah, tiens, on a été... Bon, écoutez, on se met un petit intermède et on rappelle Frédéric Lacroix, c'est sans doute juste un problème de téléphone. Chers auditeurs, à tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
De retour donc avec Frédéric Lacroix, c'est sans doute, je ne sais pas, le ministère de la surcomplétude qui nous a interrompus, n'est-ce pas? Puisqu'on était dans les théories de complot tout à l'heure, je voulais...
Oui, un écureuil sur la ligne.
Oui, c'est ça. Etive, avez-vous gardé le fil de votre idée? Sinon, j'ai une autre question pour vous.
Allez-y avec l'autre question.
Oui, vous parlez, vous abordez un moment dans le livre la question de l'immigration que plusieurs voient comme un problème dans le grand portrait de la situation du français. Mais ce qui est étonnant dans ce que vous nous dites, c'est que somme toute, et vous fondez sur des scénarios qui ont été échafaudés par Statistique Canada. Hein, donc, ce ne sont certainement pas des idéologues souverainistes, indépendantistes, nationalistes ou que sais-je. Même dans les scénarios d'immigration très faibles, voire pas d'immigration, il y a tout de même des reculs assez importants du français à prévoir d'ici 2036. Comment cela se fait-il? Et est-ce que, selon vous, Ben, je sais que oui. Je comprends que malgré tout, vous prônez quand même une baisse des seuils d'immigration, comme vous prônez de façon plus large là, de ramener le financement des institutions anglophones. On n'a pas parlé de la santé, mais il y a ça aussi, là, à des niveaux plus proches de leur du vrai poids démographique des anglophones. Bref, comment se fait-il que l'immigration ne règle pas tout, comme certains... la baisse d'immigration ne réglerait pas, ne changerait pas tant que ça le portrait. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant que Statistique Canada, dans des projections qui ont été publiées en 2017, a inclus un scénario zéro immigration. Donc, zéro immigration sur toute la période 2017 et 2036. Puis dans ce scénario-là, ce qui est intéressant, c'est que le français, langue maternelle et langue d'usage au Québec, recule quand même s'il y a zéro immigrant qui arrive chez nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'immigration de un qui vient diluer le poids des francophones, ça c'est un effet mathématique, mais il y a aussi la dynamique linguistique, donc les substitutions linguistiques des allophones et des francophones aussi de plus en plus.
Alors un autre concept là, qui est au cœur de votre livre, vraiment, le phénomène des substitutions linguistiques, donc qui était francophone et devient anglophone, qui était allophone et devient francophone ou anglophone, et ainsi de suite.
Substitution linguistique, c'est le fait de changer, de passer d'une langue maternelle vers une... de ne plus parler sa langue maternelle à la maison. Mm-hmm. Donc, ça se produit. C'est un phénomène naturel. Là, c'est dans l'immigration, c'est un phénomène qui va de soi. Ce qui nous intéresse, c'est bon l'ampleur des substitutions qui vont vers le français puis l'ampleur des substitutions qui vont vers l'anglais. Il faut qu'il y ait un équilibre vers le français pour que le poids des francophones ne baisse pas. Donc, c'est ça. Pour l'immigration... Donc, il y a deux choses. Il y a la dilution, mais il y a aussi la dynamique linguistique. Puis ce que je montre dans le livre, c'est qu'on ne peut pas simplement prôner une réduction de l'immigration parce que ça ne va pas du tout régler le problème linguistique. Ça va ralentir le recul, mais ça ne stoppera pas le recul. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour pouvoir changer
la dynamique...
Oui, la dynamique, il faut briser la dynamique des substitutions vers l'anglais qui se fait de façon disproportionnée vers l'anglais.
Encore et qui sont donc en augmentation chez les francophones, d'après ce que vous écrivez.
Oui, de 2011 à 2016, dans les recensements, on a noté un doublement donc d'assimilation des jeunes francophones à Montréal, donc vers l'anglais. C'est encore faible, mais c'est une accélération, puis c'est on le voit à travers les classes d'âge. Plus c'est jeune, plus c'est haut. Donc ça, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là à Montréal. Montréal est en train de basculer dans une dynamique ce que j'appelle hors Québec. Donc ce qui marque la dynamique chez les francophones hors Québec, c'est un taux d'assimilation très, très élevé. Puis on commence à voir les signes de ça à Montréal. Donc, non seulement les allophones qui sont assimilés massivement à moitié vers l'anglais, mais les francophones, ça commence aussi. Donc, ce que je pense, c'est que si on met pas en place des mesures pour venir rehausser le statut du français, ben, on va le poids global de l'assimilation vers le français, qui est à peu près moitié, va commencer à baisser.
Alors, rehausser le statut du français, lui donner du prestige, en faire la langue commune, c'était, dites-vous, puis on le sait bien, le principe même fondateur de la Charte de la langue française. Et il y a une question qui reste en suspens dans votre livre. Vous expliquez que, donc, la Charte de la langue française a été instaurée pour faire cela, mais plus encore, c'était une loi qui défiait le cadre constitutionnel canadien, c'était une loi qui en fait, vous l'écrivez vous-même, ce sont vos mots, vous dites, on faisait comme si le Québec était un pays indépendant, finalement. Et oui. Ce sont précisément tous ces poils-là qui dépassaient, qu'on a coupés avec les années pour ramener la charte dans la philosophie canadienne et dans le cadre, à l'intérieur du cadre constitutionnel, si on veut. Mais davantage, vous dites aussi que le Canada fonde sa politique linguistique sur une perspective individuelle, alors que ça prend une perspective collective pour redonner du prestige à une langue, d'où l'importance des institutions, par exemple. Alors bref, vous nous décrivez décrivez ce processus-là de perte de puissance de la Charte de la langue française et vous expliquez à la fin qu'il faut justement revenir à aux origines de la Charte et lui redonner de la puissance. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le... c'est pas le serpent qui se mord la queue, là. Est-ce que si le fédéral a détricoté la Charte de la langue française, si on la retricote, est-ce qu'on se fera pas tout simplement redétricoter à très court terme?
Oui, ce que je pense, c'est que la Charte a été écrite dans une perspective d'un Québec indépendant. Puis Camille Lorrain l'a dit carrément, tu sais, c'était l'objectif qu'il visait. C'était à très, très court terme. Donc, la Charte, c'était comme un premier pas vers l'indépendance. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le concept de double majorité de la loi sur les langues officielles fédérales. Donc, ce concept-là, c'est que ben, les anglophones forment une majorité hors Québec, puis au Québec, les francophones forment une majorité. Donc, la Charte s'est basée sur cette conception-là. Puis, à mon avis, c'est la plus grande erreur de la Charte, parce que
c'est pas une réalité, en fait. C'est ça, vous le dites bien, oui.
C'est ça, d'un point de vue des mots linguistiques, les francophones ne forment pas une majorité. Les francophones sont partie d'un pays qui s'appelle le Canada, où ils sont une minorité. Donc, se voir comme une majorité, c'est faux. Donc, la dynamique linguistique est attachée à la majorité canadienne. Donc, le français, il recule partout au Canada, incluant au Québec. Donc, les francophones sont une fausse majorité de ce point de vue-là au Québec.
Alors, est-ce que c'est la quadrature du cercle?
Ce qu'il faut, à mon avis, c'est prendre acte de l'échec de l'indépendance, puis de refonder la charte sur l'idée que non, ben là, nous ne sommes pas indépendants, puis il faut agir. Donc, il faut agir avec les moyens dont nous disposons.
Et nous ne sommes pas une majorité.
Pas d'un point de vue des mots linguistiques. On est une majorité dans une province, mais on n'est pas une majorité d'un point de vue des mots linguistiques parce qu'on est, on se fait assimiler sur notre propre territoire.
Parce que qu'on appelle ici la minorité anglophone est en fait une extension d'une majorité sur l'ensemble du Canada.
Ça a été reconnu par la Cour suprême du Canada qui a clairement décrété que les anglophones au Québec faisaient partie de la majorité canadienne. Donc, il y avait une seule majorité au Canada. Donc, moi, je pense qu'il faut refonder la politique linguistique sur l'idée que le français a besoin d'être protégé. Puis une façon de le faire, qui n'a pas été abordée avec la Charte de la langue française de 1977, c'est de s'intéresser à l'éducation supérieure, donc au post-secondaire. Donc, les concepteurs de la Charte se sont arrêtés au secondaire. Puis on voit aujourd'hui, on constate que les institutions post-secondaires, cégep et université, ont un rôle absolument majeur dans les substitutions linguistiques, puis dans la vitalité.
Et par ailleurs,
donc,
que celle du... Et que celles du côté francophone sont actuellement mal en point du point de vue du financement et de la capacité à attirer des inscriptions, des demandes d'inscription. C'est ce que vous dites aussi. Frédéric Lacroix, nous n'avons plus de temps. J'espère qu'il nous restera davantage de temps pour sauver le français au Québec. Et c'est un plaisir de discuter avec vous. On vous invitera de nouveau sans doute très bientôt. Il y aura d'autres dossiers d'actualité qui requériront votre lecture et vos lunettes sur la complétude institutionnelle, entre autres. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Frédéric Lacroix. Et on vous souhaite bien des ventes. Merci. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été avec nous pour cette édition de Société et à la semaine prochaine.